Le collectif L'île Radiée vous présente Intelligence artificielle et énergie nucléaire. Un podcast réalisé dans le cadre de la semaine antinucléaire de l'île de mars 2026. Retrouvez cet enregistrement, sa brochure et plein d'autres choses encore sur l'île.indymedia.org.
Bonjour, moi je vous propose donc un atelier que j'ai intitulé Intelligence artificielle et énergie nucléaire. Pourquoi cet atelier? C'est deux thématiques qui sont un petit peu en vogue sur toutes les questions industrielles, un petit peu. C'est plutôt des thématiques qui regardent vers le futur, donc il y a un peu une envie de faire une prospective sur ce qui pourrait arriver en France notamment. Sachant que ce qui m'a donné l'idée de cet atelier, c'est que il y avait un espèce d'arpentage de dossiers sur l'IA et tout ça, et il y avait un document d'une revue qui s'appelle AI Now, qui est une revue un petit peu de chercheurs mais plutôt critique sur le développement de l'intelligence artificielle et qui traitait ces deux sujets. Voilà, ensemble, en IA j'ai un peu des idées, mais c'est pas mon sujet de cœur. Mais du coup, mettre ça en rapport avec le nucléaire, je trouve ça intéressant pour voir les liens qu'on arrive à tirer autour de ça. Et du coup, c'est une revue américaine, donc on va beaucoup parler de l'industrie américaine, notamment du nucléaire. Mais ensuite, on va revenir vers la France et on va voir que, quand même, globalement, ce qui se passe aux États-Unis, c'est des choses qui nous importent parce que c'est un peu là aussi que c'est arrivé. Notamment parce que les États-Unis, c'est un peu le début, alors pas du nucléaire, mais en tout cas des applications, notamment militaires, du nucléaire, avec le projet Manhattan, les bombardements, les essais nucléaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette période-là, mais on va s'intéresser d'abord à ce qui se passe aux États-Unis. Depuis 1945 rapidement et un peu surtout les années 70. Donc aux États-Unis, ils ont leur programme militaire donc, qui est très intéressant mais dont on ne va pas énormément parler. Si ce n'est qu'ils ont la particularité d'avoir quand même fait beaucoup. Bonjour. Donc je disais donc les États-Unis, les bombardements, les essais nucléaires et une filière nucléaire civile. Donc, il se trouve que pour un petit peu, c'était quand même un sujet un peu nouveau dans les années 50, 60, pour gérer un petit peu ce qu'ils appellent les utilisations pacifiques de l'atome, ils ont fait une organisation, un comité qui s'appelait la Commission à l'énergie atomique. Donc c'est pas comme le CEA chez nous. C'est des gens qui s'intéressent à l'utilisation pacifique et qui est chargé aussi notamment et de faire le développement et de faire les premiers balbutiements des règlements sur le nucléaire. Là au début on va s'intéresser au règlement, à la réglementation nucléaire, c'est un petit peu technique, mais c'est surtout pour avoir dans les grandes lignes, voir qu'est-ce que ça nous fait et pourquoi à la fois c'est quelque chose qui sert à faire passer des projets un peu merdiques. Et à la fois, malheureusement, c'est aussi des fois le dernier recours qu'on a entre les industriels et les accidents nucléaires. Voilà, donc c'est un petit peu, on va être un petit peu sur cette ligne de crête. Donc au début, ils ont commencé à faire les premiers règlements, tout en faisant, donc la particularité des États-Unis, c'est qu'ils font quand même beaucoup les essais nucléaires sur leur propre territoire. C'est quand même le pays finalement le plus bombardé du monde, c'est les États-Unis, puisqu'ils sont, il y a eu, donc là, la période charnière, ça va être les années 70, mais jusqu'au moment où ils ont vraiment commencé à rentrer plus dans les histoires de régulation, ils ont quand même fait 750 à cette époque essais atomiques, dont 200 atmosphériques, c'est-à-dire que dans les déserts, ils balançaient des bombes et il y a des gens qui se faisaient un petit peu irradier du coup. Donc, ils ont essayé un petit peu de rationaliser de voir qu'est-ce que c'est en fait le risque nucléaire, comment on fait pour le quantifier, comment on fait pour l'évaluer. Et ça a été fait notamment en 1969 par quelqu'un qui s'appelle Chauncey Starr et les objectifs qui ont été donnés, c'est un petit peu chiffrer le risque, c'est voir un petit peu qui prend des radiations, combien et tout ça. Mais surtout, le fond, c'est quel est le risque acceptable, c'est-à-dire quelle quantité de nucléaire une population ou un groupe, une armée est prêt à recevoir en échange ou de la dissuasion nucléaire ou de, d'une énergie d'énergie électrique, c'est-à-dire de voilà, c'est en fait la question est de poser à quel moment ce rythme est acceptable, et une fois qu'on a défini ça quand même, de se dire si on accepte que la population elle prenne tant de nucléaire, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour éviter qu'elle en prenne plus. Voilà, en tout cas ça c'était l'articulation. Et il se trouve que dans les années 70, à force de tous ces, notamment des essais atmosphériques, il y a eu beaucoup de maladies radio-induites, c'est-à-dire des gens qui se sont pris du nucléaire. On a commencé, alors c'est toujours difficile à déterminer, mais à se dire que ces gens-là, probablement, ils étaient tombés malades à cause du nucléaire. Voilà. Et donc j'ai... Il y a eu quand même une contestation aux États-Unis dans cette époque-là. C'est pas quelque chose dont je suis très expert, mais visiblement, il y avait beaucoup de ce qu'on pourrait de ce qu'on pourrait un peu appeler des manifs citoyennes, des pétitions ou des recours. Il n'y a pas eu des. Ça n'avait pas l'air d'être l'ambiance des grosses manifs qui sont plutôt un mode d'action européen, mais il y a quand même une opposition. Et face à ça, à peu près aux alentours de 73, ils se sont fixés comme objectif d'augmenter la crédibilité du nucléaire dans la société, parce que on parlait du risque acceptable, plus les gens sont contre le nucléaire, plus qu'on se considère comme un risque acceptable, du coup ça diminue, c'est-à-dire que du coup ça les empêche de polluer autant, et du coup ça rend plus difficile de respecter les normes qui sont fixées. Donc ils ont, pour ça, ils ont dit on va réévaluer, et ils ont fait en 73-75 des nouveaux protocoles pour évaluer et pour calculer plus précisément la probabilité d'un risque lié à des irradiations, lié à des activités, et à partir de là les appliquer à la conception des réacteurs, c'est-à-dire dire on accepte tel risque, du coup si on fait tel choix technique, on aura potentiellement tel risque d'accident, du coup on le calcule comme ça, et du coup c'est acceptable, c'est pas acceptable, et ça va un petit peu se structurer pour la manière dont les réacteurs ou les installations sont dimensionnées. Voilà, donc ça s'est un petit peu précisé. Il faut savoir que à partir de 1974, l'AEC, là, la Commission de l'énergie atomique américaine, ils disaient bon, quand même, ils font un peu n'importe quoi, ils sont pas du tout stricts dans leur manière, ils sont à la fois jugés partis. Du coup, il y a une nouvelle organisation qui va prendre le relais, qui s'appelle la NRC, donc on va un petit peu parler après, qui est un petit peu l'équivalent de notre de feu, notre institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'IRSN. Et en 79, ils ont eu la catastrophe de Three Mile Island, donc un accident nucléaire majeur sur le sol américain, qui a été notamment causé et par la dangerosité intrinsèque du nucléaire, il faut pas l'oublier, mais aussi par des erreurs humaines. Et donc à partir de là, ils ont dit ok, dans ce qui est les normes et les évaluations pour faire de la technologie nucléaire, il faut qu'on prenne en compte les facteurs humains. Voilà, donc c'est-à-dire que l'avantage aussi, alors après il y a eu, et quand même ça n'a pas ni empêché Tchernobyl ni Fukushima, mais maintenant ce qu'on considère aussi, c'est, on change un peu le discours, on dit ah, il y a eu un accident nucléaire, bon, on a beaucoup appris, c'est un super retour d'expérience, la filière en sort grandie, quelque part c'est un petit peu super d'avoir des accidents, c'est comme ça qu'on apprend. Il y a aussi un discours qui a un petit peu changé là-dessus, mais ça a donné lieu quand même à deux cadres dans la sûreté nucléaire qui sont encore actifs aujourd'hui, même s'ils sont débattus. Donc voilà, pour les voir, c'est notamment ce qu'on appelle le modèle linéaire sans seuil, le LNT, qui est de dire dès qu'il y a de la radiation, il y a un effet sur la santé, et que les effets sur la santé, notamment les cancers et tout ça, ils augmentent proportionnellement au niveau de radioactivité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis les années 70, que j'ai un petit peu découvert en étudiant ça, que c'était considéré un peu comme un standard mondial, mais que en fait encore aujourd'hui, notamment en France, c'est des sujets qui sont débattus. Il y a un peu de dire c'est toutes les choses qu'on dit sur les faibles doses, ah oui, mais là c'est les faibles doses, du coup ça ressemble un petit peu au niveau naturel, du coup est-ce que c'est vraiment dangereux. Donc il y a des débats dans l'acceptation ou non de ce critère, mais plutôt c'est pas les épidémiologistes qui le mettent en cause, c'est plutôt le nucléaire. Donc voilà, il y a quand même ce cadre qui est posé, il y a un peu ça. Et il y a un autre principe qui s'appelle l'ALARA, qui veut dire aussi bas que raisonnablement possible en anglais. C'est-à-dire qu'il faut éviter les irradiations qui sont excessives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une radiation qui est excessive? Donc on revient un petit peu à qu'est-ce qu'une population, ou qu'est-ce que, par exemple, si vous allez faire une radiographie, qu'est-ce que vous acceptez, entre guillemets, ou qu'est-ce que la science accepte de faire donner comme niveau de radiation pour gagner quelque chose? Et aussi, donc ça prend en compte les enjeux de santé, mais comme c'est la question de ce qui est raisonnable, ça prend aussi en compte ce qui est raisonnable économiquement et socialement. C'est-à-dire que ça dépend... voilà, ça fait gagner beaucoup d'argent, ça fait des économies, ça évite du CO2, du coup, je sais pas, on va accepter quelque chose qui est plus important. Donc c'est toujours... Il y a l'idée un peu sympa de dire on évite d'irradier les gens pour rien, mais il y a quand même, ça permet aussi de valider le fait que des projets sont ok parce qu'ils ont été validés selon ces principes-là. Voilà, il y a un peu ce double niveau toujours. Ça évite une surexposition, mais ça permet de valider des projets qui exposent. Mais voilà, en tout cas, c'était un peu des principes cadres qui ont été donnés, qui ont quand même, malgré tout, on peut penser, parce qu'il n'y a pas beaucoup de discussions démocratiques autour des projets nucléaires, mais ça a priori quand même un petit peu évité à des moments des accidents, pas tous, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu ça les garde-fous. Les garde-fous du nucléaire, et donc depuis 1974, donc il y a cet organisme de régulation, la NRC, qui dit là c'est pas en raccord avec ce qu'on s'est dit, il y a un peu des contrôles extérieurs, voilà, bon c'est un petit peu sûrement qu'ils font un petit peu ce qu'ils peuvent, mais en tout cas ça existait. Maintenant on va regarder un petit peu si j'ai oublié des choses. Bon voilà, c'est à peu près ça. Ok, alors maintenant on va faire un petit... on va parler d'IA un petit peu plus tard, mais là ça va commencer à se rapprocher un petit peu, parce qu'à l'époque, en 1974, effectivement, il n'y avait pas d'histoire d'IA. On va arriver un petit peu dans les années 2000, à partir de 2024, notamment à partir de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Il y a quelque chose quand même qui s'est passé à ce moment-là. Notamment depuis 2025, depuis début de 2025, donc c'est des infos qui sont assez récentes, et il y a aussi sûrement beaucoup de choses qui vont arriver dans le futur. Depuis 2025, ils ont... Alors d'ailleurs, sur ce sujet-là, on peut se dire qu'en France, on a eu la fusion de l'IRSN et de l'ASN, donc le gendarme et le gendarmerie, normalement, enfin, qui ont été un peu... qui ont fusionné, donc il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça arrive, mais ils ont dit l'ANRC, c'est trop old school, c'est trop lourd, c'est trop gros, on va un petit peu optimiser. Là, on va parler un petit peu de ce qui est l'optimisation. Donc, ils ont, Donald Trump, pour le un petit peu optimiser le nucléaire américain, il a diminué donc les moyens de cette instance de régulation. Il a diminué les délais d'instruction, c'est-à-dire qu'avant on leur disait bonjour, on veut faire une centrale nucléaire, ils disaient d'accord, on va étudier votre projet, mais par contre excusez-nous, ça va être un petit peu long, ça prend plusieurs années. Maintenant ils ont clôturé le délai à 18 mois, c'est-à-dire que cette entreprise qui a, enfin cet organisme qui a moins de moyens, il a 18 mois pour dire est-ce que un projet est bon ou non. Et surtout les seuils des seuils de radioactivité auxquels est soumis le public ou les travailleurs. C'est plus la NRC qui le dit, c'est le département de la Défense et le département de l'Énergie. Du coup, ça change un petit peu le... Il y a un conflit d'intérêts, du coup, qui apparaît là-dedans. Et ça a été fait à la demande de Trump, mais aussi des patrons de la tech. Donc la tech, c'est toutes les entreprises de la Silicon Valley, les grosses entreprises du numérique. Et Trump, à ce moment-là... Il a aussi dit que les deux principes, là, ALARA et NLT, c'est des principes qui sont non scientifiques. Voilà. Il a dit c'est pas de la vraie science, donc il fait un peu de la réalité alternative comme il sait le faire. Et voilà, donc un petit peu cette sûreté nucléaire qui s'est développée un petit peu bon an mal an pendant 70 ans au fil des accidents, elle est un petit peu remise en question comme ça d'un seul coup parce qu'il a décidé quand même qu'il fallait que ça aille un petit peu plus vite. Et qu'est-ce que c'est l'argumentaire derrière ça? C'est il faut optimiser, il faut accélérer. Voilà, vous vous souvenez de Elon Musk qui voulait, qui avait son département de l'optimisation administrative, là c'est cette idée-là. Et l'argumentaire, c'est que on est dans une nouvelle, un peu comme un genre de guerre froide, on a un concurrent international très important, notamment sur les questions d'intelligence artificielle, parce que c'est le cœur du sujet aujourd'hui, en termes de numérique, et ce concurrent, c'est la Chine. Donc c'est plus l'URSS, aujourd'hui c'est la Chine. Et si on veut pas se faire dépasser par la Chine, pas être soumis à leur technologie, peut-être à leurs ingérences numériques, que sais-je, il faut y aller, quoi. Et pour ça, on a besoin effectivement de déréguler l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de débats sur ces questions-là, et aussi le nucléaire, qui du coup servira à alimenter les intelligences artificielles. Parce que dans l'idée, l'intelligence artificielle, elles ont besoin donc de ce qu'on appelle des centres de données, des data centers, qui ont besoin d'être alimentés en continu, qui demandent beaucoup d'énergie et qui, si possible, ne sont pas reliés aux autres endroits du réseau où il pourrait y avoir des coupures ou des demandes autres, parce qu'il faut que ça reste allumé tout le temps. Et du coup, l'idée, c'est un peu, on va faire du nucléaire, comme ça on va alimenter l'IA, et avec l'IA, alors l'IA, ça va se retourner, vous allez voir, mais c'est pour ça qu'il y a un lien fort entre les deux. Bon, déjà, ce qu'on peut dire de ça, c'est que quand on a des milliardaires, donc des entreprises de la tech, et un pouvoir, quand même, on peut dire autoritaire, en tout cas encore plus autoritaire qu'avant, on n'est pas sur une pente très, très intéressante, quoi. Sachant que c'est ce qui se passe aux États-Unis, mais en France, quand même, on a un petit peu les mêmes logiques. C'est-à-dire qu'on a eu, bon, dans un autre sujet, mais on a eu la loi Duplomb pour les pesticides qui disait c'est trop compliqué, il faut un petit peu dégraisser le mammouth de l'autorisation des pesticides, du coup on va simplifier, il y a toujours cette histoire de simplifier. On a quand même une relance de la dissuasion nucléaire il y a 2 semaines là. On a eu la fusion, comme je l'ai dit, de l'IRSN et de l'Agence de sûreté nucléaire. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, les libéraux, les gens un peu sérieux, classiques, et les gouvernements populistes, en fait, ils se retrouvent à cet endroit-là. L'intérêt, c'est quand même globalement de faire du fric et de faire tourner les grandes entreprises. C'est pas, enfin, le populisme de Donald Trump, c'est pas faire un peuple américain heureux, c'est faire une Amérique puissante et quitte à faire crever sa population aussi. Voilà. Donc à partir de là, le réformisme, la régulation, c'est un peu réformiste, c'est dire oui, on va faire du nucléaire, mais un peu mieux. On peut la critiquer longtemps, mais au bout d'un moment, quand ça n'existe plus trop, on finit un petit peu par le regretter. Voilà. Du coup, on est quelque part à danser entre la nécessité de critiquer les projets en eux-mêmes et peut-être des fois de pleurer quand des organismes qu'on estime insuffisants se prennent des coups sur la tête. Voilà, ça c'est des conceptions, considérations politiques qu'on a des fois du mal un petit peu à se poser. Voilà, ça c'est un petit peu la première partie, donc c'est le cadre américain et même à l'étranger. On va revenir un petit peu sur ces questions démocratiques, mais voilà, je vais refaire un petit... Là on va aller plus précisément sur les sujets de l'IA, parce qu'on va voir qu'en fait l'IA va aider aussi le nucléaire, ce que j'ai un petit peu découvert à ce moment-là, dans ces proportions-là. Donc déjà, sur un petit point définition, on va parler quand on parle d'un modèle de langage, un grand modèle de langage, c'est un outil qui permet qu'une machine, une intelligence artificielle, dise des trucs à des humains dans un langage à peu près compréhensible, qui n'était pas vraiment le cas avant. Et ça donne lieu à des applications, par exemple le ChatGPT qui est géré par OpenAI, une entreprise. Il y a aussi DeepSeek en Chine, il y a Grok d'Elon Musk, tout ça c'est des modèles de langage. Et leur travail, c'est d'aspirer plein de choses que les êtres humains ont écrites. Et à partir de là, quand on lui fait une requête, de refaire quelque chose qui ressemble à du texte humain. C'est-à-dire que... Ce qui est ressorti, c'est pas C'est pas un être humain qui comment il penserait, comment il construirait sa phrase en fonction de ses idées, de la grammaire, de la langue et tout ça. C'est non, c'est à quoi ça ressemble des milliards de textes. Et à partir de là, on sait à quoi doit ressembler un texte. Du coup, on fait quelque chose qui correspond supposément à l'attente de la personne qui le reçoit. C'est une différence en fait entre produire du texte et produire quelque chose qui ressemble à du texte. C'est pour ça que par exemple, dans les intelligences artificielles, des fois il y a ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire l'utilisateur il m'a demandé une réponse à une question, en fait j'ai pas vraiment l'info, le modèle il se dit ça, du coup j'ai un petit peu lui pipoté un truc, je vais créer une information qui va se retrouver là. Et puis maintenant c'est pour ça que sur les IA on vous dit vérifier les informations quand même parce que bon voilà. Mais c'est quelque chose qui est rendu possible parce que il produit quelque chose qui ressemble à une argumentation mais qui n'est pas vraiment une argumentation toujours. Et évidemment qu'ils s'améliorent et qu'ils ont de moins en moins ces problèmes là, mais ça existe toujours, ça fait partie intégrante du fonctionnement des IA. Et en fait le but c'est de faire plaisir à l'utilisateur un petit peu et de l'envoyer aussi une forme de responsabilité, parce que l'autre côté de ça, c'est que pour avoir un texte qui est fourni par une intelligence artificielle, ou une image d'ailleurs, il faut faire ce qu'on appelle un prompt. Donc la prompt, c'est une demande que vous allez écrire en langage naturel, donc en langage humain. Et pour faire ces prompts, on a développé ce qu'on appelle l'ingénierie de prompt, c'est-à-dire la manière de poser des questions à une intelligence artificielle. C'est-à-dire que on pose pas une question comme on pose à un humain, on essaye de prendre en compte ses biais, de lui faire comprendre dans quel contexte on pose la question pour qu'elle aille chercher les infos aux bons endroits, que si possible elle évite de nous raconter n'importe quoi alors que c'est important qu'elle ne nous raconte pas n'importe quoi. Voilà. Donc ça c'est un petit peu les compétences du marché du travail aussi d'aujourd'hui, c'est l'avenir, c'est apprendre à parler des machines. Avant c'était des développeurs qui parlaient en langage informatique, maintenant c'est du langage qui ressemble à du langage naturel. Donc ça c'est quelque chose qui est en train de se répandre dans la société, qui fait partie des boulots de merde de la société numérique, c'est apprendre à parler à des machines pour faire des fiches de paix, des cours de lycée, je sais pas, pourquoi pas des brochures sur l'intelligence artificielle. Et ça c'est basé notamment par exemple, c'est pas basé sur rien, à titre d'anecdote, à Madagascar il y a beaucoup de gens, leur travail c'est ils regardent des fiches de paix qui ont été créées par l'IA et ils disent ah là il y a une erreur, et du coup ils le renvoient et ils entraînent les modèles comme ça. Donc il y a aussi tout un travail un petit peu aliénant derrière tout ça. Bref, critique de l'IA, voilà, ça c'est un petit peu dans le cas général. Donc on se dit bon, pour faire des fiches de paix, ok, sauf que c'est là que ça devient un petit peu plus inquiétant, c'est que Microsoft a racheté les droits d'utilisation d'un des réacteurs de la centrale de Three Mile Island, où il y a eu un accident nucléaire en 79. Donc c'est pas celui qui est cassé qu'ils ont racheté, c'est un autre quand même. Mais pour prolonger l'activité de ce réacteur, Microsoft utilise l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les modèles de langage qui servent normalement à faire des fiches de paix, en fait on leur a donné à manger plein de données sur le nucléaire, et en fait les documents de sûreté les documents préparatoires, ils sont aujourd'hui faits avec de l'IA. C'est-à-dire que ça soulève plusieurs problèmes, c'est que ils sont exposés donc à ce risque d'avoir des faux textes et des hallucinations. Et aussi, vu qu'il faut juste savoir des gens qui savent écrire des prompts, en fait, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur en sûreté nucléaire, il suffit juste de savoir écrire des prompts. Du coup, vous pouvez demander à des gens qui ont fait une école, voilà, un peu start-up comme ça, qui vont du coup générer des documents de sûreté nucléaire. Ce qui fait que, avant, le truc de dire « Ah là là, c'est que des experts qui font du nucléaire », donc ça éloigne effectivement la question du citoyen et des citoyennes, mais quand même, il y a un peu des gens qui ont une idée derrière la tête de comment ça se passe, et même ça, qu'on pouvait un peu critiquer parce que c'était caché, et en fait, c'est même ça, c'est même plus une sécurité qu'on arrive à avoir, et on sait pas du tout où ça va. Donc on cache un petit peu ce code de la sûreté nucléaire, c'est important, du coup c'est un peu sanctuarisé. Dans d'autres domaines, par exemple, que ce soit la NASA ou la santé, ils ont un peu dit, pour tout ce qui est les applications les plus sérieuses, les plus risquées, on considère qu'il n'est pas raisonnable d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça c'est pour ces domaines-là, mais en nucléaire, visiblement, il n'y a pas ce travail-là qui a été fait, et on considère que c'est normal de faire ça, parce que, en disant... Si on fait si on demande à une IA d'écrire nos dossiers de sûreté, en fait, au lieu de mettre 8 ans à faire le dossier, on va en mettre 3 et du coup, on va gagner du temps. Donc, on va optimiser, donc on va être compétitif avec la Chine. Ils sont hyper. L'IA, elle est plus intelligente, elle évite les erreurs humaines, du coup, on va aussi être moins risqué. Et du coup, voilà, c'est un peu ce pari-là qui est fait, qui est un petit peu basé sur de l'idéologie, quand même, parce qu'il y a, pour l'instant, on n'a pas de retour d'expérience sur ça. Il faudra attendre qu'il y ait des centrales nucléaires faites, créées par des IA qui soient mises en place, qu'on découvre des erreurs, qu'on dise « Ah, on a beaucoup appris, on va mettre à jour nos modèles de langage sur les IA, voilà. » Donc ça, c'est des risques qui sont effectivement potentiels. Et il y a un autre problème aussi qui est donné par les chercheurs qui ont fait cette compilation, c'est que, donc évidemment, il y a quand même des gens qui relisent ce qu'a fait l'IA, mais qu'en fait, il y a un biais cognitif, même chez des gens très éduqués, c'est de la psychologie, c'est qu'en fait, on a plus de mal à déceler les erreurs que fait une IA que les erreurs qu'on fait un humain, parce qu'en fait, on considère que c'est... pas qu'on a confiance, mais en fait, c'est tellement amené avec aplomb que c'est difficile, en fait, de déceler ça. C'est comme, je sais pas, quand vous relisez un texte, vous le lisez 5 fois, vous voyez pas la faute d'orthographe, ben là, il y a un peu ce phénomène-là qui a lieu, et du coup, voilà, a priori, ça a l'air un petit peu difficile de faire ça correctement. Voilà. Ensuite, il y a un autre biais lié à l'intelligence artificielle. C'est que du coup, je vous ai dit que pour faire un modèle de langage, il faut prendre plein d'infos et il faut les donner à manger pour entraîner un modèle, faire tourner des calculateurs qui brûlent plein de charbon, qui fait plein de choses, hein, bref, voilà. Mais que pour faire des documents nucléaires, il faut donner des documents sur le nucléaire, sinon il ne peut pas savoir. Donc déjà, premier problème, c'est... Les gens qui font les modèles de langage, c'est pas des entreprises nucléaires, c'est des entreprises de la tech. Du coup, c'est pas des gens qui sont censés normalement gérer des données en lien avec la sûreté nucléaire. Donc déjà, là, on fait complètement péter l'espèce de secret militaire et industriel qui à la fois défend et à la fois justifie le nucléaire. Mais encore, voilà, ça va pas dans une démocratisation dans le bon sens. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le risque d'empoisonnement. C'est-à-dire que des données qui sont captées, si vous captez des données qui ont été soit involontairement, soit volontairement créées pour faire penser des conneries au modèle d'intelligence artificielle, en fait, vous avez un risque qu'elles soient intégrées comme vraies et du coup que les données qui soient sorties, elles soient polluées par ce domaine-là. Donc, il y a un peu cette histoire avec les images sur les IA où on dit « Ah, elles se deviennent toutes un peu jaunes à cause des images qui ont été générées par l'IA. » Voilà, il y a ces problèmes-là. Mais visiblement, il y a un risque sérieux que il y a des données... qui apparaissent comme des données de sûreté nucléaire, qui soient volontairement faussées par notamment des puissances étrangères, pour créer de la déstabilisation et des risques. Et ça, a priori, c'est un risque réel qui n'existait pas avant. À l'inverse, il y a aussi le risque, comme ça passe dans des entreprises de la tech qui entraînent d'autres modèles, que les informations un peu secrètes, elles aillent dans des mains de puissances étrangères qui, par une attaque informatique ou par des espèces de requêtes d'IA, arrivent à avoir accès à des documents. Donc ça augmente aussi le risque de prolifération nucléaire. Donc il y a à la fois plus de risques d'accident potentiellement dans des installations et plus de gens qui pourraient faire des installations. Donc ça en fait, ça élargit ça. Il n'y a pas, à ma connaissance, de grandes discussions internationales sur ça, à part des gens un peu fondus d'IA qui disent « Désolé, on n'avait pas pensé à ça. » Et voilà, là, on est un petit peu en train d'espérer que ça n'aille pas dans ce sens-là. Donc, si on reparle un petit peu du monde d'avant, il y avait le traité de non-prolifération des armes nucléaires qui disait « Ces États-là, ils ont l'arme, ils ont le droit de la garder, les autres non. » Ou alors il faut qu'ils s'engagent à le faire uniquement pour des utilisations pacifiques. Ça, c'était un petit peu le cadre international. Là, on voit que ça fait très longtemps que c'est débattu, qu'on est en train de dire « Ah non, mais en fait, il faut du désarmement et tout ça. » Là, c'est un petit peu en train d'exploser parce que simplement, des pays qui ont des pirates informatiques ou qui ont de l'argent ou que sais-je, ils auraient potentiellement accès à ces données-là. Donc on est sur le... Voilà, sur une forme de dérégulation un petit peu nouvelle aussi. Voilà, c'est pas très enthousiasmant, mais voilà. Et il y a un autre spécificité, c'est que c'est que non, le monde du numérique, c'est beaucoup géré par des startups, c'est-à-dire on fait un petit peu du bluff, on demande plein d'argent, on fait des projets qui se cassent un petit peu la gueule. Donc, bon, quand on manie des capitaux et quand on manie des données, il n'y a pas des risques énormes, mais c'est vrai que quand on commence à faire ça avec du nucléaire, genre des startups de modèles de langage pour le nucléaire, on est sur autre chose. Et on peut même voir que ça va un petit peu plus loin. Là, on va revenir plus spécifiquement sur le nucléaire. Et notamment sur les projets de nouveaux réacteurs, donc les nouvelles technologies de réacteurs. J'ai recherché un peu, j'ai recensé quelques projets qui sont donc directement. Donc il y a beaucoup de projets de recherche en nouveaux réacteurs, mais il y en a qui sont spécifiquement financés par les entreprises de la tech, les gens qui veulent faire de l'IA, donc pour avoir leur petit réacteur maison qui les aide à faire des calculs, à entraîner des modèles et tout ça. Les entreprises du numérique, elles s'associent à ces startups et elles font notamment des SMR. Alors les SMR, c'est donc les petits réacteurs modulaires dont vous avez peut-être entendu parler. Donc qu'est-ce que c'est qu'un petit réacteur? C'est un réacteur dont la puissance est inférieure à 300 MW, c'est-à-dire à peu près un tiers de réacteurs, des réacteurs français, un tiers, un quart. Il y en a qui font 20 MW, il y en a qui font de la chaleur, il y en a qui font de l'électricité, il y a différentes typologies, mais c'est en gros des petits réacteurs qui sont normalement plus faciles à construire, qui sont normalement, qu'on peut faire un petit peu en chaîne, et qui ont vocation un petit peu à se disséminer un petit peu partout. Voilà, donc ça c'est... Qu'est-ce que ça change là? Parce que là, en France, on est quand même sur des sites qui sont un peu massifs, qui sont à des endroits bien définis. L'idée, c'est d'en mettre un peu partout, et le problème ou l'avantage, selon où on se place, quand il y a du nucléaire partout, c'est qu'en général, quand vous avez du nucléaire à côté de chez vous, vous êtes potentiellement plus... C'est plus difficile de critiquer le nucléaire, parce qu'en fait, si vous habitez à côté d'une centrale et que vous êtes contre le nucléaire, soit vous êtes dépressif toute votre vie, soit vous faites un espèce de remodelage intellectuel pour vous dire non mais ça apporte beaucoup, en fait ça va, le risque il est calculé, en fait sinon vous ne pouvez pas vivre. Et qu'en fait, donc ça, en tout cas ce qu'on observe, de ce que j'en sais, c'est que plus on est proche d'une centrale, plus les gens sont pour, parce que les gens qui sont là, bah, ils y travaillent et en plus ils acceptent de vivre ici et ils se sont un peu racontés que ça leur apportait du bien. Et quand on s'éloigne un petit peu, même une dizaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres, les gens étaient plus opposés. Et donc là, si vous avez des petites centrales partout, il n'y aura plus trop ça. Donc ça permet de faire accepter le risque, et du coup de faire accepter aussi le nucléaire en général et le nucléaire atomique. Et voilà, donc ça c'est le côté un peu pernicieux. Et donc ces SMR, pour les détails, c'est souvent, donc il y a différents, il y en a qui sont basés sur des technologies en disant actuelles, on dirait troisième génération, donc un petit peu comme les EPR. Même si c'est un peu le début, c'est quand même des technologies actuelles. Et il y en a d'autres qui sont basées sur d'autres, sur des modèles qui ne sont pas encore vraiment industrialisés, donc dites quatrième génération, dont on promet notamment qu'ils pourraient manger du plutonium et réduire les déchets, enfin avoir d'autres avantages intéressants. Voilà, en tout cas, il y a plein de projets différents, il y a plein de technologies différentes, c'est pas du tout quelque chose qui est aussi homogène que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça recherche un petit peu dans tous les coins. Et donc qui c'est qui fait ça? Donc on a vu quand même qu'il y a des projets qui sont portés par des acteurs un peu historiques, par exemple EDF en France, qui d'ailleurs a un petit peu de mal avec Flamanville, donc on ne sait pas si ça va vraiment faire des réacteurs, en tout cas ils ont déjà participé à ça dans leur vie. Rolls-Royce en Angleterre, ou KHNP en Corée du Sud, qui fait aussi des réacteurs. Mais que globalement, c'est surtout des start-up. Donc on revient à cette histoire de start-up. Une start-up, c'est quelqu'un qui va vous dire: si vous me filez 100 millions d'euros et peut-être 1 milliard après, en 2028, je vous fais un prototype qui produit l'énergie. Voilà. Donc après, vous êtes investisseur, vous y croyez ou vous y croyez pas, vous êtes... Alors les investisseurs, c'est un peu leur boulot de savoir ce qu'ils veulent ou pas, mais après, ils en parlent ça à des technocrates grisonnants de l'administration française en disant... Voilà, on vous propose ça, est-ce que vous nous financez? Et en fait, on change un petit peu de modèle. Et donc ça, c'est quand même aussi financé avec de l'argent public, ne l'oublions pas. Il y a quand même ça pose quand même c'est la question de comment on finance ça. Et surtout, je vous en parlerai après. Et du coup, ça nécessite aussi.
C'est gentil.
Ça nécessite aussi des procédures qui sont facilitées, un peu comme aux États-Unis, où ils disent qu'ils ont besoin d'accélérer. Par exemple, pour faire accepter les EPR2, et dans un autre pays, d'ailleurs, le Royaume-Uni, qui n'est pas non plus dans une forme de démocratie très, très en forme en ce moment, ils ont dit, il y a un an, ils ont dit qu'ils allaient déchirer les règles archaïques de sûreté nucléaire pour les développements, et qu'ils allaient aider les projets nouveaux et tout ça. Voilà. C'est un petit peu quelque chose d'un peu international, c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment ça se passe dans d'autres pays. Voilà, donc quelques noms un petit peu de projets qui sont... Alors il y a beaucoup de projets d'SMR, mais je vous en donnais quelques-uns, comme ça vous les aurez un peu entendus, uniquement de projets qui sont fournis, enfin qui sont prévus et financés par de l'intelligence artificielle, des acteurs de l'IA. Donc il y a le projet Oklo, qui est porté par OpenAI, donc qui fait ChatGPT aux États-Unis. Il y a le projet NewScale, qui a un autre projet qui a des problèmes, qui veut travailler pour des data centers. Il y a Kairos, qui est financé par Google, qui est un réacteur de 4e génération. Il y a X-Energy, qui est financé par Amazon. Il y a Deep Atomic, qui est prononcé par un campus IA dans l'Illinois, qui est prévu aussi pour la Suisse et les États-Unis. Et enfin, on a Stellaria, un SMR prévu à celle fondue, pour les opérateurs de data center, donc il y aurait éventuellement des implications en France. Voilà, ça c'est un peu des noms. Et après, il y a beaucoup d'autres formes de SMR, mais ça c'est donc plutôt des SMR qui produisent de l'électricité, puisque c'est ça qui intéresse pour l'IA. Donc il y a toujours le discours que le SMR c'est petit, du coup c'est pas dangereux, parce que c'est plus facilement contrôlable, qu'il y a moins de déchets. Mais du coup, ça fait que dans les réglementations qui sont prévues, plus petit, moins dangereux, ça veut aussi dire qu'ils s'autorisent à faire moins de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a des normes qui seraient moins strictes pour la gestion, en disant c'est plus simple, on n'a pas besoin de faire toutes ces prévisions. Voilà, et il y a aussi un autre phénomène pernicieux, c'est que quand vous avez quelqu'un qui vient, vous dit dans 3 ans je te fais un réacteur nucléaire, tu lui dis ouais d'accord, 3 ans n'importe quoi, mais du coup, si vous en avez un autre qui vous dit moi, dans 8 ans, je vous fais un réacteur nucléaire, mais en fait, il a l'air un peu raisonnable comme ça. Ça décale un petit peu le côté raisonnable du nucléaire. Et notamment pour des acteurs du domaine public qui n'ont pas ces habitudes-là. Et en fait, on a un petit peu la pensée autour de l'industrie de l'IA et du nucléaire qui sont un petit peu en train de s'hybrider. Voilà, ils sont en train de finalement, le nucléaire, ça devient un projet numérique un peu start-up, un peu cool comme les autres. Sachant que donc la pensée start-up, c'est basé sur les capitalistes, c'est-à-dire on a 100 projets, on sait qu'il n'y en aura que 10 qui seront rentables, et il y en a un qui nous donnera beaucoup d'argent, donc c'est un peu comme ça, et du coup ils espèrent gagner de l'argent sur celui qui va beaucoup réussir. Mais le problème, c'est que si sur ces 100 projets, ils commencent à faire un peu des réacteurs de démonstration avec du plutonium dedans, que finalement l'entreprise se casse la gueule, et que ça reste un peu là au milieu en disant « Désolé, notre projet innovant, il n'a pas marché », en fait ça pose d'autres questions que quand c'est juste des gens qui font des algorithmes dans des bureaux de la Silicon Valley. Voilà, il y a quand même une petite différence. Et à titre d'anecdote, donc je vous ai parlé du projet Oklo et de Nucleo. Donc Nucleo, c'est ceux qui font du nucléaire aussi à côté de Nogent-sur-Seine. Il y a un petit peu d'actualité en ce moment.
Ils sont lyonnais, je crois.
Ils sont lyonnais. Je crois qu'ils viennent un peu. Il n'y a pas des Italiens aussi dans l'histoire
Sûrement.
Ouais,
mais je sais qu'ils sont à Lyon, ils ont des bureaux. Ouais.
Et ben, ils ont eu un accord avec l'administration Trump pour accélérer leur projet pour avoir accès au plutonium américain. Voilà, du coup, il y a un petit côté un peu internationaliste de la connerie nucléaire. Voilà, donc ils ont des petits passe-droits comme ça.
Excuse-moi, c'est le nom du projet, t'as dit c'est...
Nucleo, N-E-W.
Ah, Nucleo.
Mais je crois que c'est la boîte qui s'appelle quoi.
Ouais, c'est la Oklo, boîte. Et le projet qui s'appelle Oklo.
Ouais. Ah, oui, cool.
Nucleo, c'est le start-up.
Voilà. Oklo, t'écris ça.
O-K-L-O. Voilà. Et quand même, donc au départ, c'est quand même. Je reviens un petit peu sur le. Donc, dans ce que je dis, il y a des choses qui sont issues du document, des choses que je suis allé traiter, mais je reviens un petit peu à leur conclusion. Et eux, ils parlent d'IA, ils sont pas vraiment anti-nucléaire, mais ils disent quand même, en conclusion de cette partie-là, que si on fait du nucléaire à tout rompre, ça risque de causer une perte de confiance du public dans le nucléaire. Ils disent ça, quand même, c'est un risque. Donc voilà, c'est un petit peu intéressant, mais c'est vrai que il y a un intérêt, effectivement, à parler de ces approches-là, qui sont un peu plus nouvelles, pour créer un petit peu ce sentiment de perte de confiance, qui effectivement donne un petit levier sur le public. On n'est pas en train de parler du risque d'accident d'une centrale qui l'a depuis 40 ans et qui, visiblement, à part les petites merdouilles qu'il y a tous les ans, il n'y a pas eu de grande catastrophe en France. Il faut un peu dire qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Voilà, c'est... Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu des perspectives. Donc, les perspectives sur les data centers, on va revenir un petit peu aux data centers. Donc, c'est des choses qui consomment beaucoup d'électricité, sans doute. Donc, avant 2024, avant le début un petit peu, enfin, même un peu 2023, un peu quand l'IA et sa partie à fond la caisse, en gros, il y avait de plus en plus de capacités de calcul, mais ils avaient des technologies qui étaient plus efficaces. Du coup, en gros, ça consommait toujours un petit peu la même chose. Voilà, ça a augmenté. Mais dans les dernières années, ça a augmenté pas trop parce que ça s'équilibrait. Mais là, ce qui se passe avec l'avènement de l'IA et aussi des crypto-monnaies, dont on parle pas beaucoup, mais qui sont un moyen de faire de l'argent et qui sont plutôt une pensée libertarienne aussi un petit peu facho, quoi. Il y a une augmentation énorme de l'usage. Du coup, il y a plus cet équilibre et cette consommation stable. Et on estime que l'état... Alors, il y a plusieurs modèles, c'est un peu flou, c'est un peu difficile à prévoir, mais que d'ici 10 ans, la consommation des data centers, elle sera multipliée par 3 par rapport à aujourd'hui. Et que en 2050, ça devrait à peu près être la consommation de l'Union européenne d'aujourd'hui, juste pour les data centers dans le monde. Donc on est quand même sur des échelles qui sont très grandes. Donc effectivement, l'UE, dans 2050, consommera plus d'électricité, forcément. Mais là, c'est un peu comme si, en 2050, hop, l'Union européenne, ça servait à alimenter les data centers. Il y a quand même les autres choses qui se passent dans la vie. Et donc, j'ai un petit peu vite fait calculer ce que ça faisait en fonction des fourchettes. Ça veut dire qu'en 2050, il faudrait à peu près 100 à 250 nouveaux EPR2, voilà, en équivalent de production. 2050, c'est dans pas si longtemps quand même. Il n'y a pas tant de projets qui sont annoncés. Du coup, on se demande un petit peu comment, déjà, s'ils vont y arriver. Ça, c'est pas forcément notre histoire. Mais surtout, s'ils y arrivent, dans quel cadre démocratique ça va être fait? Parce que... ils vont pas pouvoir lancer, enfin c'est dans le monde entier, mais il va pas pouvoir y avoir autant de nouvelles constructions de réacteurs, sachant que c'est 250 EPR2, mais du coup si on ramène ça à des SMR, ça en fera peut-être 300, 400, 1000, on sait pas.
Attends, 250 ou 150?
De 100 à 250.
Okay.
En fonction de la fourchette qu'on prend, je sais plus ce que j'avais mis. Voilà, il prévoit la consommation de data center en UE dans le monde en 2050, c'est entre 1700 et 3500 TWh. Voilà. Du coup, si on ramène à des EPR, ça fait à peu près le surplus, ça fait ça à peu près. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? C'est que quand on vous parle de simplification dans le cadre politique, c'est pas faire en sorte que les gens aient plus facilement accès au RSA et aux aides de la Sécu, c'est aider le capitalisme à aller plus vite. Voilà, donc dès qu'il y a le mot simplifié, il faut un petit peu avoir un petit red flag qui se lève. Que si on veut parler de démocratie ou simplement du nucléaire, en fait, il faut, au bout d'un moment, il faut porter la critique de l'intelligence artificielle, il faut porter la critique de ce qu'on appelle l'électrification des usages, parce que là c'est même pas qu'on électrifie, c'est qu'on en crée d'autres, mais on est toujours à dire ah oui il faut faire des nouveaux réacteurs à Gravelines parce que on électrifie les usages, mais aussi on en crée. Il faut aussi, dès qu'on parle de décarbonation, c'est aussi par exemple les data centers américains, ils tournent quand même beaucoup au charbon parce que il y a des régions où il y a beaucoup de charbon pour l'électricité. Donc quand on dit décarboner, en fait c'est aussi faire des nouvelles choses qui servent à rien et les alimenter avec du nucléaire, il y a un peu ça, voilà. Il y a aussi, je sais pas, on peut vous parler d'hydrogène rose. Alors l'hydrogène rose, c'est l'hydrogène qui est fait à partir du nucléaire, c'est une nouvelle couleur du nucléaire. Et ça sert à justifier des projets de merde de l'IA ou de plein d'autres choses, voilà. Donc, l'autre concept un petit peu vaseux qu'on retrouve, c'est la question de la souveraineté. Quand on dit en France, on a besoin de souveraineté dans l'IA, on a besoin d'avoir des modèles européens. En fait, ça veut dire que il faut faire des nouvelles choses qui servent à rien, qui coûtent de l'argent et qui coûtent de l'énergie. Donc, c'est finalement la même mécanique que pour le nucléaire. Quand on parle de souveraineté nucléaire, c'est on peut faire nos propres ogives nucléaires et on peut faire nos propres centrales. Donc, il y a aussi une ressemblance très forte en fait entre le fonctionnement de l'IA vu comme un enjeu stratégique et le nucléaire comme enjeu stratégique. Voilà, c'est un peu ce que je disais avec cette histoire de nouvelle guerre froide. Et l'intérêt, c'est que en fait, l'IA et le nucléaire, c'est un sujet qui apparaît encore une fois comme des sujets complexes, avec beaucoup d'expertise, beaucoup d'entreprises, ça va très vite. Mais c'est aussi un système qui est faillible. Du coup. Si on veut pouvoir le critiquer, en fait, comme pour le nucléaire, il y a possibilité de le faire à partir de sujets qu'on connaît un petit peu, ou de thématiques annexes, qui sont le droit de vivre dans un monde en paix, pas avoir des IA tueuses et des drones par IA et tout ça. Il y a le droit à ce que le travail ne soit pas remplacé par des intelligences artificielles, en fait, c'est aussi une réalité actuelle. Il y a un droit à la santé sur le nucléaire, il y a un droit à l'écologie, à la démocratie, enfin tout ça en fait c'est des choses qui sont connexes à ça. Donc il y a pour moi un enjeu à faire un petit peu converger toutes ces luttes-là et à identifier qu'il y a ces nouvelles choses. Et d'ailleurs si on parle un petit peu rapidement de ce qui se passe dans le Nord, qu'est-ce que ça serait les projets de SMR dans le Nord, j'avais un petit peu regardé et a priori donc... Pour l'électricité, pour l'instant, ils en sont là. Bon, on aura deux EPR Gravelines, du coup, ça va se faire. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui nécessitent de l'électricité, mais aussi de la chaleur. Par exemple, ArcelorMittal à Dunkerque, ils ont besoin pour faire de l'acier, ils ont besoin de beaucoup de chaleur et d'électricité aussi pour faire de la chimie lourde aussi vers le port de Dunkerque. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent utiliser de la chaleur. Et en fait, la chaleur, c'est les SMR, les centrales nucléaires aussi. En fait, c'est des usines qui d'abord font de la chaleur et après, ça transforme en électricité. Mais il y a des projets de SMR qui sont liés à la production de chaleur. Donc, il n'y a pas que l'électricité. Et il y a, en tout cas, si on regarde les endroits en France où ça serait le plus pertinent de mettre des SMR, a priori, ça serait quand même dans la région, dans le Nord-Pas-de-Calais, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui en auraient l'usage. Voilà, donc il y a un intérêt à avoir un petit regard sur ça. Voilà, donc ça fait des nouvelles choses à s'intéresser, mais voilà, c'est un petit peu ce que j'avais trouvé. Je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. J'ai fait une petite brochure avec un petit peu les choses que je vous ai dit là-dedans. Vous pourrez en partir pour les gens qui n'ont pas pris de notes. Voilà, et puis tenez-vous informés de ce qui se passe par la suite. Il faudrait peut-être la remettre à jour tous les 6 mois, mais je n'ai pas prévu ça. J'ai parlé rapidement et beaucoup, mais maintenant on peut passer si vous avez des questions, des éclaircissements ou des ajouts, parce qu'effectivement c'est pas mes sujets, des sujets que je connais beaucoup plus que ce que j'ai recherché là-dessus, mais voilà, je suis ouvert. Merci pour votre attention.